Sur internet, bonjour à vous qui nous regardez à la télé, Dieu vous bénisse. Bon, ce matin, je voudrais que nous fassions une lecture dans la lettre au... Le roi s'en va. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, verset 5, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul qui écrit et qui dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je vais continuer donc cet enseignement au sujet de la puissance de l'esprit humain. Pas confondre avec l'âme, c'est autre chose. L'âme est une création. L'esprit humain, c'est cette parcelle de Dieu, cette étincelle, cette vie, la vie. Les gens demandent, mais d'où vient la vie? Eh bien, c'est justement de l'esprit. C'est quelque chose. Nous sommes des êtres, nous sommes des esprits dans des corps. C'est nos véhicules, on se déplace avec, pour le moment. Mais avant, on se déplaçait sans corps, c'était beaucoup mieux. Maintenant, nos esprits ont décidé de venir habiter dans des corps pour un certain temps, pour pouvoir venir glorifier Dieu dans une création limitée. Nous sommes limités, terriblement limités. Mais avec les enseignements de Jésus, on peut atteindre des sommets formidables, on peut dépasser nos limites, puisque nous apprenons que nous sommes des esprits et que tout est régi par des lois, donc il y a des lois spirituelles. La plupart des gens ignorent, beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens connaissent ces lois et les mettent en pratique, alors que beaucoup de chrétiens ne les connaissent pas, donc ne les mettent pas en pratique. Et beaucoup de personnes vivent des choses sans savoir qu'ils sont en train de bafouer des lois, et puis après ils s'étonnent que ça ne va pas dans leur vie. Alors l'enseignement de Jésus est bon pour vous, pour nous, pour tous ceux qui veulent bien écouter ce que Jésus a à dire, pour pouvoir vivre mieux. Paul nous dit là une chose importante, nous devons, vous devez avoir une pleine conviction dans votre esprit. Que cette conviction soit juste, ou qu'elle soit fausse. Peu importe, ce qu'il faut, c'est avoir une pleine conviction. Ça peut paraître bizarre, hein? Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis là. Parce que si vous n'avez pas une pleine conviction dans votre esprit, vous allez produire de la confusion. Vous allez être partagé, vous allez être divisé, et vous allez produire de la confusion, c'est-à-dire un déséquilibre dans votre vécu. Par exemple, là l'apôtre Paul est en train de parler de ceux qui font une distinction entre des jours et aussi de ceux qui disent il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ci, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Paul, lui, il avait une pleine conviction. Au verset 2, je vous lis. Vous allez voir, il est terrible cet apôtre Paul. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, virgule, qui est faible, virgule, ne mange que des légumes. Il est terrible. Paul avait la conviction que celui qui croit qu'il ne peut pas manger de tout, eh ben, il est faible. Il avait cette conviction. Il ne méprise pas ceux qui pensent qu'il ne faut pas manger de tout. Il ne les méprise pas. Paul respecte celui qui a une pleine conviction dans son esprit, c'est-à-dire qu'il soit fort ou qu'il soit faible, il le respecte. Quand il nous dit qu'il faut faire accueil aux faibles, ça veut dire, voilà, c'est ça, il faut les respecter. Il faut respecter, bon, bien, t'as cette conviction qu'il ne faut pas manger de porc, qu'il ne faut pas boire de vin, qu'il ne faut pas boire. Bon, ben, c'est bien, c'est ta conviction, on ne va pas t'embêter avec ça, c'est bien, tu as raison. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit, le produit d'une conviction, c'est péché. Alors maintenant, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est notre esprit qui produit les choses. Vous vous rappelez, je vous ai dit, notre âme, elle réfléchit, elle pense, elle a une mémoire, elle analyse par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a lu, par rapport à ce qu'elle a vu, entendu, touché, tout ça, elle analyse, elle dit non, ça c'est pas vrai, j'y crois pas, oui, ça c'est vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Elle analyse, elle est un gardien de notre esprit. Notre esprit, c'est un jardin. Et à partir du moment où le gardien de l'esprit, c'est-à-dire notre âme, accepte une chose pour vraie, même si c'est faux, ça rentre dans notre esprit et ça produit quelque chose. Ça produit ce qui nous arrive dans la vie. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est péché. Le mot péché, ça veut dire c'est un ratage. C'est ça que ça veut dire le mot péché. Péché, c'est manquer le but, c'est rater. Beaucoup de gens vivent des choses, ils ont 24 heures comme tout le monde, mais ils les utilisent mal, c'est ratage. Ils gaspillent leur temps, ils gaspillent leur énergie, parce que ils sont pleins de confusion, parce qu'ils ne sont pas ordonnés, parce qu'ils ne sont pas disciplinés, parce qu'ils croient des choses fausses. Mais bon, tant pis. On les respecte, on les aime tels qu'ils sont. Mais maintenant, quand même, ce serait bien que chacun puisse avoir la possibilité de changer, s'il est faible, de devenir fort. Non? C'est ce que l'apôtre Paul s'applique à faire. Tout le monde est d'accord avec l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul. Il ne faut pas mépriser celui qui a une conviction qui est différente de la nôtre. Vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul, oui? Ah, bon, c'est bien. Eh bien, Paul ne méprise pas, juste, il enseigne. C'est son devoir. Il enseigne. Il était mandaté pour le faire. Il enseigne que celui qui croit qu'il y a certaines choses, il ne faut pas les manger, ben, il est faible. Celui qui croit qu'il y a certains jours qui sont différents des autres, comme par exemple le Shabbat, ou le dimanche, ou Pâques, ou Pentecôte, ou Noël, ou que sais-je, Ramadan, ou tout ce que vous voulez, eh bien, il dit, il est faible. Ces jours ne sont pas différents. C'est sa pleine conviction. Et il dit, voilà, ceux qui pensent que, voilà, faut pas manger ci, faut pas manger, ce sont des faibles. Comment réagissaient les gens qui recevaient la lettre, là? Parce que ça, c'est une lettre que Paul envoyait aux gens, aux chrétiens de l'Église qui étaient à Rome. Ce n'est pas le Vatican, hein, ça n'existait pas. Et il leur écrivait, et puis il leur écrivait ça. Comment est-ce que vous imaginez? Imaginez un petit peu que je vous écrive une lettre dans laquelle je vous dis, OK, vous devez avoir une pleine conviction dans votre esprit, mais quand même, faut que je vous dise, celui qui a la conviction qu'il ne peut pas manger de tout, qu'il ne peut pas boire de tout, qui pense que c'est le samedi qui est un jour sacré ou un autre jour, il faut quand même que je vous le dise, il n'est pas fort spirituellement, il est faible. Il se met des lois, il se met des restrictions pour se rassurer, pour... Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous penseriez? C'est un peu vexant quand même ce que l'apôtre Paul dit là aussi, hein? Mais il le dit par amour, parce qu'il veut que ces gens soient libérés de toutes ces contraintes, de toutes ces traditions, de ces superstitions, de ces machins. Alors, ça marche aussi pour d'autres choses, ça ne marche pas que pour le manger, le boire ou les jours qui sont différents les uns des autres, ça marche pour tout ce qui est conviction. Vous devez avoir les vôtres. Vos convictions, vous devez les avoir fermes, une pleine conviction d'avoir raison. C'est OK, mais voilà. D'autres personnes pensent que vous, alors, pensent autrement que vous. Alors, comment, qui a raison, comment gérer tout ça? Devant Dieu, mes frères et sœurs, devant Dieu, les deux ont raison. Les deux ont raison. Ça nous paraît difficile à comprendre parce que nous, on veut que ça soit noir ou blanc, on veut que ça soit haut ou bas. Mais on ne peut pas comprendre que les deux puissent avoir raison. Si, aux yeux de Dieu, les deux ont raison. Parce que, l'apôtre Paul dit, c'est pour le Seigneur que vous faites comme ça. C'est pour Dieu que vous vous privez. Par exemple, nos frères américains, ils se privent de vin. Ils sont certains, les born again. Les évangéliques, il ne faut pas boire de vin, c'est péché. Quand ils viennent en France, ils sont étonnés de voir que les chrétiens boivent du vin. Et les Africains, la même chose. Quand vous allez en Afrique, hein, Alain et Priscille qui reviennent là-bas, eh bien, les pasteurs ne boivent pas de vin, c'est péché. Voilà, quelqu'un leur a enseigné ça, ils ont cru ça, puis voilà. Et c'est pour le Seigneur qu'ils le font pas. Ils disent, ah non, on ne le fait pas, c'est pour plaire à Dieu, gna 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 gna. Bon, ben, c'est très bien. Donc, aux yeux de Dieu, c'est parfait. Et les gens ne mangent pas de porc, les juifs ne mangent pas de porc, les arabes ne mangent pas de porc. Si c'est pour Dieu qu'ils le font, c'est très bien. Mais le problème, c'est Dieu t'approuve, il n'y a pas de problème. Mais là où il ne t'approuve pas, c'est quand tu méprises celui qui mange ou celui qui boit. C'est là le problème. C'est quand tu méprises. Alors, est-ce que l'apôtre Paul méprise en disant tu es faible? Non, il ne méprise pas. Il essaie de faire prendre conscience que c'est juste une faiblesse parce que. Vous pourriez être plus fort si vous aviez une autre information, un autre enseignement, quelque chose qui vous rend libre de cette superstition. Vous ne croyez pas que c'est une superstition, mais c'en est une. Aux yeux de Dieu, il ne vous en veut pas, mais ce n'est quand même pas clair, 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 juste, 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 selon ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Alors, mes frères et sœurs, par exemple, les adventistes, ils font une distinction avec le samedi, le dimanche. Nous, on fait le culte le dimanche. Bon. Et puis, eux, ils le font le samedi. Et ils sont sûrs, n'est-ce pas? C'est très bien, ils font ça pour honorer Dieu. Mais s'ils méprisent ceux qui font le culte le dimanche, eh ben, ils pêchent. Et nous, si on méprise les adventistes parce qu'ils font le culte le samedi, ben, si on dit, oh, ils sont. Non, alors, là, c'est pas bien, on pêche, aux yeux de Dieu. Donc, je résume. Aux yeux de Dieu, les deux ont raison. Et. Là, il y a un secret qui réside. Là, il y a un secret qui réside. Pour le monde de l'esprit, la conviction, c'est ce qui est le plus important. Avoir une conviction. Être entier. Le mot intègre, ça veut dire entier. Vous devez être intègre, c'est-à-dire entier. Vous devez être convaincu. Mais vous ne devez pas être obstiné. Vous ne devez pas être sectaire dans votre façon de réagir par rapport à ceux qui sont différents. Paul, il s'adressait aux forts, il s'adressait aux faibles, et il dit de quel côté il est. Il dit, moi, je suis du côté des forts, je bouffe de tout, et je bois de tout. Voilà. Il se met du côté des forts. Et son enseignement, il a deux buts. Un, c'est de dire qu'une personne forte et son comportement est une personne faible. Une personne est faible dans son comportement. Il y a des personnes fortes dans leur comportement. Il y a des personnes faibles dans leur comportement. Et la deuxième chose, c'est de dire que ni l'une ni l'autre doit mépriser celui qui croit différemment. Ça, c'est les deux choses principales que l'apôtre Paul veut dire. Donc, je le redis, Paul ne méprise pas ceux qui ne mangent pas. Il ne méprise. Mais tout de même, il fait quand même bien comprendre qu'ils sont faibles. Là, c'est rentré maintenant. Je peux passer plus loin. Parce que c'est très important, ça c'est juste le préliminaire, parce que sinon, alors après ça va être un gros embrouillage que je vais vous dire. Il faut que ça soit bien clair. Donc, ils ont besoin de changer de conviction puisqu'ils sont, ce que l'apôtre Paul dit, faibles. Ils ont besoin d'avoir des convictions qui fassent d'eux des gens forts. Oh ben non, moi je veux rester comme je suis, non. Moi, non, on m'a dit c'est comme ça, mais moi, je ne change pas. Ben, dis donc, si tout le monde pensait comme ça, on vivrait encore comme les gens au XIIIe siècle. Heureusement qu'il y a des gens qui disent, attends, voir, puis qui réfléchissent. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, parce que, quelle que soit votre conviction, aux yeux de Dieu, c'est OK. Tant que vos convictions sont pleines, sont fermes, qu'elles ne sont pas embrouillées, c'est OK, vous voyez? Parce que tout ce qui n'est pas le produit de ce qui vient de vos convictions, c'est péché, ça c'est clair. Bon, alors maintenant, je suis mandaté moi aussi pour enseigner. Et Dieu confirme ce que j'enseigne en faisant des prodiges, des miracles, toutes ces choses, conformément à l'enseignement de Jésus. Donc j'enseigne avec une pleine conviction. J'ai aussi mes convictions. Et j'enseigne avec mes convictions. Maintenant, quel est votre indice d'enseignabilité sur l'échelle de 1 à 10? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes enseignable? Je vous pose la question. Voulez-vous quitter la précarité?
Voulez-vous abandonner l'ignorance pour la sagesse? Voulez-vous laisser la tristesse sortir des ténèbres religieuses pour entrer dans la lumière divine? Dieu n'est pas un religieux. Est-ce que vous voulez sortir des craintes pour avoir une vie de confiance en vous-même, dans les autres, en Dieu? Est-ce que vous voulez sortir des échecs à répétition, des asservissements à toutes sortes de lois, de rituels et de machins, pour vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un degré d'enseignabilité sur une échelle de 10 à 10, alors vous allez dire, oui, bon, ben, je vais écouter ton enseignement. Je ne vais peut-être pas être complètement toujours d'accord, mais je vais au moins écouter, parce que moi, je veux sortir de ce qui ne me plaît pas dans ma vie, de ce que je produis, de ce qui m'arrive. Je ne suis pas content de ce qui m'arrive. C'est-à-dire du péché, du ratage. Frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de plus grande bénédiction que cela, du point de vue mental, du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel, du point de vue matériel. Il ne peut pas y avoir une plus grande bénédiction que cela, d'entendre un enseignement qui nous sort de la médiocrité, qui nous sort du ratage, qui nous sort de la peur, qui nous sort de tout ce qui est péché, de ce qui est mal, de ce qui nous fait mal. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous regardez la télé? Pourquoi vous écoutez mon enseignement sur Internet? Pourquoi? Pour apprendre consciemment des vérités qui vont faire de vous des gens forts. Ou parce que vous voulez devenir fort. Je vais vous expliquer quelque chose. La première fois que je suis monté dans une voiture derrière le volant, c'était à Le Perreux, dans le 94, dans une avenue où il y avait des embouteillages, des voitures qui circulaient dans tous les sens. J'étais terrorisé, j'ai pensé que le monsieur, il allait m'expliquer la pédale de gauche, la pédale de droite, le petit bouton, le petit machin. Non, il me dit, mettez le contact, vous tournez la clé, je tourne la clé. Non, il faut d'abord, et puis il m'explique, et je fais, et tout. Donc il me dit, bon, ben maintenant, sortez de là. Il fallait que je me trouve dans la circulation. Et à mesure, il m'expliquait, voyez, là maintenant, là on arrive, il faut ralentir un petit peu, on va tourner à droite. Alors vous voyez ce petit machin là, vous appuyez dessus, ça va déclencher le clignotant là, de droite. Appuyez, alors j'appuie, et en fait j'entends un tic-tac, 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 c'était le clignotant. Il dit, maintenant regardez bien dans le rétroviseur à de droite, parce que là des fois il y a des vélos qui arrivent, et si vous tournez à droite, vous allez vous prendre le vélo. Alors regardez, alors je regarde le vélo. Puis après, puis petit à petit, je l'ai fait encore et encore et encore, et chaque fois, consciemment, je rentrais dans la voiture et consciemment, première chose, je mettais ma ceinture de sécurité. Deuxième chose, je mettais les rétroviseurs comme il m'avait expliqué. Troisièmement, gna 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 gna, et tout ça, je le faisais très consciemment. Au début, on conduit très consciemment. C'est pendant qu'on apprend, ça c'est la première phase. Et là, peut-être que vous avez des convictions fermes, mais que vous êtes lassé par votre vie d'échec et de voilà, et que vous voulez apprendre d'autres choses, mais ça va pas être automatique tout de suite. Il va falloir faire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne inconscient. Je me rappelle, chaque fois que je voulais mettre le clignotant, il fallait que je regarde où était la manette. Vite fait, je regardais vite fait, hein, parce qu'il faut pas trop quitter la route des yeux. Je regardais, je voulais. Et maintenant, est-ce que je la regarde où est la manette? Mais non! Ou est-ce que je change les vitesses? Hein, Francis? T'as vu? Je change facile. Hein, voilà, c'est pas le problème. On le fait plus consciemment. Je regarde le rétroviseur à droite, mais même sans y penser, parce que je sais très bien pourquoi. Et puis, j'ai tellement fait, et puis c'est devenu un automatisme. Et en obéissant à votre instructeur, à ce qu'il vous a enseigné, vous avez passé du comportement conscient au comportement inconscient. Et maintenant, vous êtes devenu un conducteur inconscient. Ça ne veut pas dire un conducteur. Non, ça veut dire un conducteur qui a des automatismes. C'est l'inconscient qui vous fait conduire. Vous comprenez mieux maintenant? D'accord. Eh bien, si vous n'aviez pas déjà compris, je vous le dis. Ça signifie que vous faites toutes ces choses sans y réfléchir. Dans la vie chrétienne, les gens viennent au culte pour être enseignés, viennent à des séminaires pour être enseignés, pour apprendre. Et ensuite, ils sortent et ils appliquent consciemment, consciencieusement ce qu'ils ont appris dans les enseignements de la part qui ont été donnés par le pasteur ou par le docteur, etc., etc. Puis, ça devient petit à petit des automatismes. À l'armée, on nous donne des ordres. Mais je vous garantis, on nous donne des ordres des fois stupides. Mais c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous apprendre à obéir sans contester. C'est pour nous apprendre à obéir automatiquement. Alors au début, on se rebelle un peu, on dit non. Et puis à la fin, on dit plus non. En moindre des choses qu'on nous dit de faire, on le fait. Qui c'est qui a fait l'armée ici? C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça. On dirait qu'on est des abrutis. Tout ce qu'on nous dit de faire, on le fait. Mais ce n'est pas qu'on est des abrutis. On est des gens dans une hiérarchie. Il y a des gens qui commandent. Ils savent ce qu'il faut faire. Et nous, on ne sait pas. On est là juste pour faire le boulot. Et puis voilà, c'est comme ça. Paul, il était le colonel, si vous voulez. L'enseignant, celui qui dit que c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, vous êtes faible. Alors maintenant, je vais vous aider à être fort. Et il leur écrivait, sachant que parmi eux, donc, il y avait des forts et des faibles. Et il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. C'est toujours pareil. L'enseignant, il enseigne, il dit ce qu'il faut faire. Il est le capitaine sur le pont du bateau, si vous voulez. Le capitaine, il donne des ordres aux hommes qui sont aux machines. Les machines, elles ne sont pas sur le pont. Quand le capitaine, lui, il voit s'il y a des icebergs, il voit les choses. Les gens qui sont aux machines, ils ne voient rien du tout. Ils obéissent si le capitaine dit tant de degrés à bâbord, pouf, ils le font sans réfléchir, parce qu'ils ont confiance dans celui qui voit, d'accord, dans le capitaine. Et à leur tour, ces hommes qui ne voyaient rien du tout, là, au fond du bateau, eh ben, ils contrôlent les chaudières, ils contrôlent les instruments de toutes sortes, les jauges et les machins. Les mécaniciens ne savent pas où ils vont, ils ne savent rien du tout. Ils suivent les ordres qu'ils reçoivent. Ben, votre esprit, c'est ça. Votre esprit, il est comme ça. Il suit les ordres qu'il reçoit. Et il produit les choses qu'il a reçues. De la part du capitaine, votre capitaine. Le capitaine, c'est votre âme, votre intelligence, votre mémoire, ce qui est conscient, ce qui voit, ce qui entend, ce qui apprend, tout ça. Les membres d'équipage, ils ne discutent pas avec le capitaine, ils obéissent aux ordres. Votre esprit, il ne va pas dire à votre âme, « Oui, mais à mon avis, je pense... » Non, non. Il produit toujours ce que le capitaine ordonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Votre âme, elle est sur le pont. Elle est capitaine, votre âme, elle est le maître de votre navire. Votre navire, c'est votre corps, je vous disais tout à l'heure, hein, votre corps. Et puis, votre corps, il navigue dans tout votre entourage, dans vos affaires, dans votre milieu familial, professionnel, au milieu de vos amis, hein, que ce soit des vrais ou des Facebook. Votre esprit, il reçoit des ordres et c'est des ordres que votre âme lui donne. C'est des ordres qui sont basés sur ce que votre âme croit être vrai, parce qu'elle a fait une analyse de la chose. Maintenant, elle peut se tromper. Alors, elle a des fois besoin d'être corrigée. Écoutez bien ça. Quand vous dites, par exemple, consciemment, aux gens, sincèrement, je n'ai pas les moyens de me payer ça. J'aurai jamais les moyens de me payer cette voiture. Je ne pourrai jamais avoir une villa comme ça avec piscine. Je ne pourrai jamais. Eh bien, votre esprit, qui est aux commandes, qui est en dessous dans les machines, qui dirige tout, eh bien, il va faire en sorte que vous ne puissiez jamais acquérir ça. Vous n'y croyez pas. Vous ne l'aurez pas. Jamais. Votre esprit va faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir ce qu'en fait, quand même, vous désireriez bien avoir. Vous avez le désir, mais vous ne l'aurez jamais parce que vous exprimez, vous donnez des ordres à votre esprit qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas nets, qui ne sont pas justes. Et pourtant, vous êtes sûr d'avoir raison. Ça, je ne pourrais jamais l'avoir. Tant que vous persistez à dire « je n'ai pas les moyens d'acheter cette voiture », tant que vous persistez à dire « je n'ai pas les moyens de faire un tel voyage, cette croisière là-bas, que je ne pourrai jamais faire une chose comme ça », vous pouvez être certain que votre esprit en a la pleine conviction et il va suivre vos ordres et vous allez traverser toute votre vie privé de toutes ces choses parce qu'il en est fait selon votre foi. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il en est fait selon ta foi. Jésus dit, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras arriver. N'est-ce pas que c'est vrai qu'il a dit ça? On l'a vu vendredi. On l'a lu dans la Bible. Je vous assure que c'est ainsi que ça marche. C'est comme ça que ça marche. La pleine conviction de votre esprit est très importante. Mais si cette pleine conviction que vous avez vous fait vivre et vous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui dans la médiocrité, la précarité, la pauvreté, l'esclavagisme, la crainte ou que sais-je, alors que faire? Eh bien, changer de conviction, c'est tout. Changer de conviction, ça se travaille. Ça se travaille, les convictions. Ah, moi, je suis convaincu. Oui, bon, mais écoute, on peut... On dit, être un imbécile, ça veut dire ne jamais changer d'idée. Non, changer de conviction, changer d'idée. Étudier, chercher à comprendre, et puis changer de conviction. Votre âme doit apprendre. Elle apprend, elle se sert pour apprendre des cinq sens. En ce moment, elle est en train d'apprendre en écoutant. Elle se sert de l'ouïe, votre âme. Elle entend, elle voit aussi un bonhomme qui gigote devant avec un micro. Et puis, il y a l'odorat. Votre âme, elle, y a le goût, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a toutes ces choses. Et puis, votre âme, elle se sert de l'expérience. Elle va réfléchir. Maintenant, il faut que vous parliez à votre âme. Mon âme, oh, maintenant, écoute attentivement. Tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Comment ça, je vais parler à mon âme? Oui, parle à ton âme, David, parle à son âme. Il faut parler à votre âme. Elle va apprendre, dites à votre âme, maintenant, écoute bien, parce que tu vas apprendre les choses que Jésus dit, lui. Lui, Jésus, le créateur du monde, il sait mieux que toi. Alors écoute maintenant. Tout est au créateur. Tout est à notre Père qui est aux cieux. Tout est à lui. Donc tout est à ses enfants. Amen. Dites-lui toutes ces choses qui sont vraies. Remplissez votre âme avec cela, puis ensuite votre âme va donner des bons ordres à votre esprit. Elle va donner des ordres positifs, elle va donner des ordres intelligents qui vont conduire, au début ça va être un petit peu, vous allez le faire un petit peu comme avec moi avec le clignotant, vous allez devoir réfléchir, ah, il faut que je mette le clignotant, ah, puis il faut que je regarde là, ah, puis il faut que je mette le rétro, ah, puis, parce que ça va vous paraître un petit peu contraignant au début, puis après ça va devenir un automatisme, vous serez des gens positifs. Vous savez, il y a tout et son contraire. Avant-hier, j'ai acheté des aimants pour montrer là-bas, dans la brousse, que les aimants, ça attire, n'est-ce pas? Mais ça repousse aussi. Il y a les deux pôles. Ben, votre esprit, c'est la même chose. Votre âme, c'est le côté rationnel. Votre esprit, c'est le côté irrationnel. Vous pensez avec votre âme. Vous réfléchissez avec votre âme. Vous ressentez les choses avec votre âme. Si vous pensez le bien, il en résulte du bien. Pour que votre âme donne de bonnes informations à votre esprit, il faut qu'elle soit chargée de choses bonnes. Alors là, elle va donner de bons ordres à votre esprit, qui lui est créateur, c'est lui qui produit. C'est ce que la Bible dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction, ce qui n'est pas la création d'une conviction. Vous comprenez? Lorsqu'une pensée dans votre âme est acceptée pour vraie, elle est acceptée par votre esprit, et l'esprit ne discute pas. Et votre esprit va commencer à la mettre en œuvre, quoi donc? Cette pensée que vous acceptez pour vraie, elle va la mettre à exécution. C'est une loi spirituelle. Que vous y croyez ou pas, c'est quand même vrai. Même si vous y croyez pas, c'est quand même vrai. Si vous avez la conviction que ce que je vous dis est faux, ou si vous avez la conviction que ce que je vous dis est vrai, vous avez raison dans les deux cas. C'est fort, ça. Ce qui est important, c'est d'avoir une pleine conviction. Moi, je préfère avoir ma conviction de gagnant et de gagner plutôt que d'avoir une conviction de perdant et de perdre. Choisissez dans quel camp vous voulez être, dans les forts ou dans les faibles. C'est vous qui choisissez. Laissez-moi vous dire, comme Paul le disait, si vous croyez que ce que je vous dis est vrai, vous faites partie des forts. Si vous ne croyez pas que ce que je vous dis est vrai, vous faites partie des faibles. Maintenant, je ne vous méprise pas, juste, je vous enseigne. Pourquoi? Pour la collecte qu'on va faire à la fin? Non, ça c'est juste pour payer l'électricité et les machins. Non, je vous enseigne par amour pour que vous deveniez forts à votre tour. Pour que vous ayez une bonne vie. C'est tout. Parce que si vous ne croyez pas que c'est une loi de l'esprit, eh bien, c'est quand même une loi de l'esprit. Et de toute façon, vous l'appliquez tous les jours. sans savoir que c'est une loi de l'esprit, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous l'appliquez tous les jours. Alors, si vous l'appliquez de façon négative, cela va causer des échecs, des tribulations, des frustrations, du malheur et toutes sortes. Par contre, lorsque votre façon de penser habituellement bien entretenue est harmonieuse et constructive, eh bien, vous allez faire l'expérience du succès, de la santé, de la prospérité, du bien-être, de la beauté, de toutes ces choses-là. Vraiment. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Hein, Jésus, c'est pas seulement aime ton prochain comme toi-même, il faut se faire baptiser, il faut aller à la messe, il faut passer à ça. Souvenez-vous, il y avait ceux qui croyaient que tel jour sont différents des autres, comme le Shabbat par exemple. D'autres pensaient que tous les jours se valent, mais tous pensaient que Dieu aimait leur façon de penser. Et en fait, ils avaient raison, Dieu aime bien, ça n'a aucun problème, il vous aime de toute façon. Vous avez une pleine conviction et vous pensez qu'elle plaît à Dieu, alors c'est bien. Alors je vous dis, oui, elle plaît à Dieu, mais il voudrait vous faire mûrir, il voudrait vous fortifier, il voudrait vous faire passer de l'état d'enfant, adolescent, premièrement avec une espèce de crise, hein, et puis ensuite à l'état d'adulte spirituel, pas rester toujours comme un gamin. Ce que vous croyez, c'est si important, ah ben, je ne sais pas trop ce que je crois, ben oui, bon, je crois bien qu'il y a quelque chose, mais bon. Ce qui est vrai, c'est ce que Jésus enseigne. Ça fait plus de 40 ans, ça fait 44 ans maintenant. Ça fera 44 ans le 1er juin que j'étudie ce que Jésus dit. Et ça marche. Ce qui est vrai, c'est ce que Jésus enseigne, et il enseigne que tous les croyants sont des chasseurs de démons, de malheur, de tristesse. Tous les croyants parlent dans des langues qu'ils n'ont pas apprises pour leur édification personnelle. Tous les croyants imposent les mains aux malades. Tous, et les malades sont guéris. Tous les croyants sont de ceux à qui rien ne manque. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous qui connaissez la Bible. Il enseigne que si vous faites de lui tous vos délices, eh bien, il vous comblera de tout ce que vous désirez. Imaginez, qu'est-ce que vous désirez? Peut-être que ce n'est pas une belle voiture. Je ne sais pas, moi, ce que vous désirez, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous désirez, il veut vous l'accorder. Si seulement vous faites de lui ses délices. Mais faire de l'Éternel ses délices, ce n'est pas se mettre dans la position du lotus ou je ne sais pas quoi, puis dire, « Éternel, sur ton trône élevé, combien mon amour s'élève vers toi. » Oh, je fais mes délices de l'Éternel, mon Dieu, tout puissant. C'est des âneries religieuses, c'est bien gentil, c'est bien, on n'a pas, c'est pas qu'on ne doit pas le faire. Ça, c'est bon pour, excusez-moi, c'est bon pour les faibles. Mais faire de l'Éternel des délices, c'est dire, je vais faire tout ce qu'il dit. Ça fait plaisir à Jésus. Vous comprenez? Alors maintenant, vous prenez un centimètre couturier, comme disait notre ami Robin. Et vous mesurez quoi? Vous mesurez votre vie par rapport aux promesses que Jésus fait aux croyants. Et puis vous allez voir qui est faible et qui est fort. Ok, ce matin, je vais vous demander de faire une chose étrange. On est dans un lieu de culte. Je vais vous demander de faire un gros mensonge. Un beau gros mensonge, bien gras, comme dirait de Funès. Bien gras, ma biche. Un mensonge qui va être agréable à Dieu. Ah bon? Ouais. Ah, ça vous entendrez rarement hein, dans les églises. Un pasteur qui vous dit, vous allez faire un gros mensonge qui va plaire à Dieu. Votre âme, votre intelligence, vos paroles, tout ça, vous allez dire... votre âme, elle va dire, mais c'est faux! Je ne peux pas dire une chose comme ça, c'est pas possible. Votre intelligence va protester. Mais je sens pas que c'est vrai, je peux pas dire une chose pareille. Vos émotions vont être embrouillées en disant mais alors c'est une secte ici, on enseigne des choses pernicieuses. On me dit qu'il faut dire, il faut que je dise des mensonges. Mais si vous avez la foi en Jésus, Jésus dit renonce à toi. Ça veut dire renonce à ton intelligence qui croit à ça. Maintenant, je te dis de croire autre chose. Renonce à tes émotions qui sont déréglées à cause de tes fausses croyances. Maintenant, renonce à toi pour suivre Jésus. Renonce à ce que crie ton intelligence. Renonce à ce que hurlent tes émotions. Renonce à ce que dit ton âme avec une pleine conviction. Renonce à ça. Si tu es faible, hein. Et ici, dans ce lieu consacré pour la vérité, pour Jésus, vous allez dire un gros mensonge. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, que celui qui est faible dise « Je suis fort !» C'est un conseil que le prophète Joël nous donne au chapitre 3, au verset 10, dans son livre. Que celui qui est faible dise « Je suis fort !» C'est un mensonge, hein? Si t'es faible, tu peux pas dire « Je suis fort !» Eh bien, pourtant, tu dois le dire. Il faut que tu sortes de là comme un poussin qui est dans sa coquille. Le fait de dire ça, ça va faire péter la coquille. Ah bon? J'en ai marre d'être enfermé dans ma religion. J'en ai marre d'être enfermé dans mon péché. J'en ai marre d'être enfermé dans ma médiocrité. J'en ai marre d'être enfermé dans ma maladie. J'en ai marre d'être enfermé dans tout ce qui me nuit. Maintenant, je pète cette coquille. Je suis fort! Waouh! Boum! Et on passe dans un monde différent. Répétez ça avec une pleine conviction. Dites-le maintenant. Je vais vous entendre. Dites-le. Alors maintenant, vous dites, c'est un petit combat avec le clignotant. Hein, au début, on hésite un peu. Hein, il est où ce clignotant? Ah, il est là. Et puis vous, je regarde le rétro. Alors, mais répétez, encore. Ça va devenir un automatisme. Et vous allez arrêter de dire, ah oh non, je peux pas. Ah oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas pour moi ça. Non. Non, vous allez commencer à parler comme quelqu'un de fort. Et vous allez vivre comme quelqu'un de fort. Répétez ça avec une pleine conviction et votre esprit l'entend et va produire la force. Entretenez cette pensée en vous. Je suis fort. Le prophète a dit que je dois le dire. Je vais le dire. Que le malade dise « Je suis en santé ». Que le pauvre dise « Je suis riche ». Que le pécheur dise « Je suis purifié par Jésus ». Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qu'il faut dire. Que le faible dise « Je suis fort », ça veut dire que celui qui est malade dise « Je suis en pleine santé ». Que celui qui est pauvre dise « Je suis riche ». C'est ça que ça veut dire. Hé, mon âme, crois ça. Rejette la médiocrité. Rejette les pensées étriquées. Rejette la superstition religieuse. Rejette cette religiosité qui te pousse dans une fausse humilité et dans la jalousie de ceux qui ont et que toi, parce que toi tu as pas et que tu trouves quand même que c'est pas normal parce que toi tu fais des efforts pour être bien puis eux c'est tous des pourris et ils ont tous des belles bagnoles et puis des yachts et puis des voyages et des machins. C'est pas juste. Rejette ces idées-là. Dis ce que Jean disait. Jean, pas notre ami Jean ici, mais un autre, hein, l'apôtre. Il disait, tel il est, c'est-à-dire Dieu, tel je suis dans ce monde. Si Dieu a tout, parce qu'il a tout créé, tout est à lui, ben tout est à moi. C'est ce que Jean disait. Il y a 2000 ans, on pense qu'il y a 2000 ans, c'était des idiots, que maintenant on est les plus sages du monde. C'est faux, on se vante d'être sages, mais le monde est devenu fou. Ce qu'on appelle l'évolution, mais c'est la dégénération de l'humanité, vous voyez. C'est le péché. Mais revenons aux enseignements de Jésus. Revenons aux enseignements des prophètes. Parce que vous êtes des créatures de Dieu. Vous méritez mieux que cette vie de chrétien de pacotille. Amen. Merci Seigneur de nous aider à bien saisir ces vérités et à les vivre. Afin d'être une lumière dans ce monde. Des gens que les autres remarquent en disant « Waouh, mais pourquoi ils sont comme ça ?» Mais c'est extraordinaire, c'est juste extraordinaire. J'ai envie de ça, je voudrais un christianisme comme ça, je voudrais avoir. Seigneur Jésus, que nous puissions être cette sorte de lumière dans ce monde. Merci Jésus de nous aider à corriger nos convictions et à les mettre fermement en pratique. Amen et Amen. Toutes les horloges nous rapprochent de ta venue.
si le temps qui passe est oublié et révolu, même si notre saison se pose sur nous comme une échéance. Se pose sur nous comme une échéance.